Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le rêve d'une société syrienne plus démocratique écrasée sous les bombes à Alep, c'est le témoignage d'un militant anti-Assad que vous entendrez dans ce journal alors que les forces pro-régime promettent de réduire leurs bombardements.
Un nouveau corps européen de garde-frontières entre en service aujourd'hui pour mieux protéger les frontières de l'Union et offrir une image d'unité sur la complexe question migratoire.
En France, le gouvernement fustige un rapport de la Cour des comptes sur les emplois d'avenir trop chers et inefficaces selon la rue Cambon. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot évoquera les failles de l'encadrement des lobbies à Bruxelles et les projets de la Commission européenne pour améliorer la transparence.
La question du jour, impossible d'exiger une contrepartie au RSA, dit la justice. Pourquoi une telle décision? Et les sujets du jour, la disparition de l'anthropologue Georges Balandier à 7h40 et à 8h15. A-t-on raison de quitter la France? Nous serons en compagnie de Guy Sorman.
Moins de bombes sur les quartiers rebelles d'Alep. C'est ce qu'annonce le régime de Bachar al-Assad alors que depuis deux semaines, cette métropole du nord de la Syrie, ancien poumon économique du pays, essuie un déluge de feu. Bombardement mené par Damas et son allié Moscou, 270 civils tués, des infrastructures en ruine, comme le principal hôpital du secteur. 250 000 personnes prises au piège dans les quartiers est d'Alep, classées officiellement depuis hier par les Nations Unies en zones assiégées, car les quartiers contrôlés par ces rebelles, réunissent trois critères: encerclement militaire, manque d'accès pour l'aide humanitaire et pas de liberté de déplacement pour les civils. Et c'est pour permettre aux habitants d'atteindre des zones plus sûres que les forces pro-régime disent réduire leur bombardement. Une annonce qui intervient alors que Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, se rend à Moscou aujourd'hui, puis à Washington demain, afin de pousser un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur un nouveau cessez-le-feu à Alep. Il y a urgence, comme témoigne un jeune militant anti-Assad. Il vit dans un quartier tenu par les rebelles et à Alep, Géraldine Allot a pu recueillir son témoignage.
Est-ce l'habitude des bombardements ou la fatigue et l'inquiétude d'une fin de journée particulièrement violente? Youssouf Moza, 30 ans, architecte de profession, devenu activiste anti-Bachar, parle d'une voix détachée, presque mécanique.
Aux alentours de 17h, un avion russe a bombardé mon quartier. On a reçu deux missiles, des bombes à fragmentation. Avec ces bombes, il y a des éclats qui se projettent partout dans l'air. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de victimes, heureusement, car l'immeuble était vide.
La vie quotidienne dans l'est d'Alep est devenue un enfer. Pas de nourriture, nombreuses coupures d'eau, aide humanitaire au compte-gouttes.
La plupart des magasins ici sont fermés, car il n'y a plus rien à vendre. C'est impossible de trouver du lait pour bébé, cela n'existe plus ici. En moins d'une semaine, à cause des bombardements, trois hôpitaux ont cessé de fonctionner.
Et quand on demande à Youssouf Moza ce qu'il attend de la communauté internationale, il a cette réponse lapidaire.
Des gens meurent tous les jours ici et personne ne s'en préoccupe.
Quel est notre tort? Demande le jeune activiste. On voulait juste vivre dans une société plus ouverte et plus démocratique.
Géraldine Allot pour France Culture. La guerre en Syrie, plus de 300 000 morts depuis 2011, la pire crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, un dossier prioritaire pour le successeur de Ban Ki-moon au poste de secrétaire général de l'ONU. Avant un vote formel aujourd'hui, le Conseil de sécurité a annoncé hier être parvenu à un accord et c'est le Portugais Antonio Guterres, l'ancien haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui devrait prendre les rênes de l'organisation au 1er janvier prochain. 22 personnes sont mortes hier en tentant de rejoindre l'Europe depuis la Libye. 368 migrants ont pu être sauvés selon les gardes-côtes italiens, ce qui porte à plus de 11 000 le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants secourus dans le canal de Sicile depuis lundi. C'est dans ce contexte que l'Union européenne lance aujourd'hui son corps européen des gardes-frontières et gardes-côtes. Il remplacera l'agence Frontex. 1 millier de personnes qui travailleront en permanence, plus du double des effectifs de Frontex. Cette nouvelle structure pourra également faire appel à des équipements techniques que les États membres auront l'obligation de mettre à sa disposition à partir de décembre prochain. Et puis cette nouvelle agence pourra acquérir son propre matériel alors que Frontex devait systématiquement adresser des demandes de contribution aux États membres, souvent peu pressés d'y répondre. Ce nouveau corps européen de garde-frontières est donc lancé en Bulgarie à la frontière frontière turque aujourd'hui, c'est-à-dire aux confins de l'Union européenne. Une décision pertinente pour Maria Gabriel, députée européenne bulgare de centre droit. Elle est également vice-présidente du Parti populaire européen au Parlement de Strasbourg et elle estime que si l'Italie et la Grèce sont en première ligne de la crise migratoire, la Bulgarie a également besoin de l'aide européenne.
C'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Le fait que le lancement de l'agence se fera en Bulgarie, c'est un signe particulier de la confiance qui est donnée à la Bulgarie dans la protection des frontières extérieures, notamment avec la frontière avec la Turquie. Mais c'est un pas dans la bonne direction pour l'ensemble de l'Europe. Nous sommes tous maintenant persuadés qu'il faut renforcer le contrôle de nos frontières. Et pour cela, il n'y a aucun État membre qui peut répondre tout seul. Il faut que ça se fasse par des instruments communs, par des politiques communes et la mise en place de l'agence est un pas dans la bonne direction. Nous avons des milliers de personnes qui essayent de traverser la frontière. D'ailleurs, il faut tout de suite le préciser, les réfugiés syriens, les Syriens qui cherchent de la protection ne sont pas la majorité. Au contraire, c'est une petite partie de ceux qui cherchent à traverser la frontière. En première place, nous avons l'Afghanistan et les gens qui viennent de Pakistan, d'où aujourd'hui la joie que nous exprimons pour l'accord de réadmission signé avec l'Afghanistan. C'est quelque chose que la Bulgarie demandait avec insistance depuis des semaines. Aujourd'hui, c'est en fait place maintenant à une mise en œuvre très rapide. Donc, pour pouvoir faire face à ce défi, il faut activer tous les instruments dont nous disposons et il faut avoir le courage d'entreprendre des nouveaux, mais de manière commune, en étant unis.
Maria Gabriel, vice-présidente du Parti populaire européen à Strasbourg, elle était l'invitée de Stanislas Vazak dans le journal de 22h hier. En Irak, à présent, la coalition contre le groupe État islamique a reconnu hier avoir très probablement tué par erreur une vingtaine de combattants sunnites alliés des forces gouvernementales irakiennes. C'était dans un bombardement près de Gayara, une ville située près de Mossoul et qui devient le centre névralgique de la future offensive vers la capitale autoproclamée du califat du groupe État islamique. Le reportage de notre envoyé spécial en Irak, Philippe Randé.
Lorsqu'un des grands généraux irakiens vient rendre visite à ses troupes sur le front, son véhicule blindé traverse le centre de Gayara au son de chants anti-Daesh. À côté des puits de pétrole toujours en feu que les djihadistes ont incendiés avant d'être chassés de la ville il y a quelques semaines, la base militaire de Gayara accueille les forces irakiennes mais aussi les Américains et les quatre canons César français. Gayara, endroit clé de la future offensive. Comme un symbole, une radio, Radio Mossoul, qui émet sur Mossoul, vient d'ouvrir à Gayara pour donner des consignes aux centaines de milliers de civils bloqués là-bas. Le Premier ministre Haïdar Al-Abadi s'est en personne exprimé sur l'antenne.
Nous vous demandons de collaborer avec vos fils, les soldats héroïques de l'armée irakienne, quelle que soit leur brigade. Nous allons vers une grande victoire et ce sera très prochainement, si Dieu le veut.
L'offensive de Mossoul va impliquer une coalition de forces irakiennes très hétérogènes et parfois rivales, offensive qui pourrait déplacer jusqu'à 1 million de personnes, des civils qui pourraient être utilisés comme boucliers humains par les djihadistes.
Philippe Randé, envoyé spécial en Irak, que l'on retrouve dans le journal de 7h30, il a pu se rendre sur la ligne de front la plus proche de Mossoul. Les États-Unis se préparent à l'arrivée de Matthew, l'ouragan le plus puissant à frapper les Caraïbes en 10 ans. Il a fait 10 morts en Haïti et 4 en République dominicaine. Distribution gratuite de sacs de sable et ouverture de refuges en Floride. On y revient dans le journal de 7h30.
7h09, la suite du journal sur France Culture. Catherine Dutu, la Cour des comptes égratigne l'une des mesures phares du quinquennat Hollande.
Les emplois d'avenir, ces contrats aidés destinés aux 16-25 ans, peu ou pas qualifiés, ils coûtent cher pour pas grand-chose, selon la rue Cambon. Car une fois le contrat terminé, seul un jeune sur 10 parviendrait à trouver un emploi classique. La France compte aujourd'hui près de 16% de jeunes sans emploi et sans formation, un taux qui n'a pas reculé depuis 2013, contrairement aux autres pays de l'Union européenne, selon un rapport publié cette fois par l'OCDE. Doublement attaqué, l'exécutif n'a pas tardé à réagir, Maxime Deps.
Les jeunes en emploi d'avenir ne seraient pas formés ? Ah bon ? Répond le gouvernement, étude à l'appui. Dans un document de 8 pages de son service de statistique, la DARES, le ministère du Travail affirme que 3/4 des 300 000 bénéficiaires du dispositif depuis 2012 ont pu profiter d'une formation. Car oui, lorsqu'elles signent un contrat avec un jeune, les entreprises s'engagent à les accompagner. Après, on peut mieux faire, rétorque un économiste. Certes, seule la moitié des 16-25 ans recensés par la DARES ont pu profiter réellement d'une formation certifiée en bonne et due forme. C'est que certains ont déjà un BEP, un CAP, que tous n'ont pas besoin d'être formés, répond le ministère. pour qui la Cour des comptes est contradictoire lorsqu'elle juge qu'il faut raccourcir la durée des emplois d'avenir. Ils peuvent aujourd'hui aller jusqu'à 3 ans. Il faut bien ça, justement, pour former quelqu'un correctement, riposte le gouvernement. L'exécutif compte bien d'ailleurs ne pas dévier de sa trajectoire. 2,4 milliards d'euros ont déjà été provisionnés pour les emplois aidés dans le budget de l'an prochain. Une bonne partie de cette somme sera dédiée aux 16-25 ans.
Maxime Deps. Faut-il continuer l'expérience islamiste? Les Marocains votent demain pour élire leurs députés et départager les islamistes du PJD aux affaires depuis 2011 de leurs rivaux plus modernistes. Un scrutin perçu comme un défi pour certains électeurs. D'autres lui tourneront le dos. Le reportage de Nabila Hamel dans le quartier Hassan à Rabat où les Marocains croisent les touristes.
Dans les grands boulevards de Rabat, les affiches électorales sont bien là, et surtout celles des deux grands partis qui auront un duel serré. Les islamistes du PJD, déjà aux affaires depuis la fin 2011, prônent une poursuite des réformes. Le PAM, le parti pour l'authenticité et la modernité, arbore dans les trois langues, l'arabe, le français et le berbère, un slogan que nous connaissons bien en France, le changement c'est maintenant, en espérant une alternance. Mais en dehors des meetings, les Marocains que j'ai rencontrés sont divisés. Asma, belle jeune femme, en jean et en t-shirt, sort de sa voiture pour saluer une de ses connaissances. Lorsque je l'ai abordée, elle n'ira pas voter.
Pour moi, rien ne va changer. C'est le même discours, rien ne change.
Son interlocuteur l'écoute sagement, mais lui ira voter et il votera islamiste par conviction.
Moi, je suis avec la justice et le développement. S'ils gagnent, il n'y a pas mieux qu'eux. Ce sont eux qui travaillent. Oui, ils travaillent, sauf que des gens ne veulent pas d'eux. C'est ça la vérité.
Ils travaillent, oui, mais ils travaillent au corps, la partie la plus pauvre de la société. Hassan, venu chercher sa fille à la sortie du collège scientifique, ira voter, mais pas pour les islamistes. Lui déplore que les autres partis ne sachent pas aussi bien organisé et mobilisé que les islamistes.
La force de ce parti, ce sont les associations caritatives. C'est comme en Turquie, ils ont déjà préparé une base de population pauvre, ils les aident par des subventions pour fabriquer une masse, mais qui ne reflète pas toutes les catégories, toutes les tendances sociales marocaines.
Si on imagine que les islamistes feront le plein de voix chez leurs militants et leurs sympathisants, c'est le taux de participation qui sera intéressant à suivre.
Nabila Hamel à Rabat pour France Culture. Le temps de ce jeudi 6 octobre, pluvieux dans le sud, nuageux mais sec dans la moitié nord du pays. Les températures sont encore en baisse. Au meilleur de la journée, il fera entre 18 et 22 degrés dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Partout ailleurs, comptez entre 14 et 18 degrés cet après-midi.